Tournons-nous ensemble dans l'épître de Paul aux Colossiens. Encore une fois, c'est une petite lettre par la taille, mais ô combien importante par sa signification, sa doctrine, la correction de doctrine qu'elle amène. On a parlé de ce que l'on appelait l'hérésie colossienne, un faux enseignement qui avait atteint cette communauté, qu'on rattache souvent à l'enseignement de la doctrine gnostique, qui faisait une séparation entre ceux qui savaient et les autres, dans le sens où il y avait une connaissance supérieure à atteindre, et dans le sens aussi où il y avait une séparation reconnue entre la matière et l'esprit. La matière était considérée comme vile, et au contraire, on s'attachait à l'esprit, mais on le faisait d'une façon fausse, qui débouchait sur l'une des deux choses suivantes. Soit on en venait à l'ascèse, c'est-à-dire on s'imposait des contraintes corporelles, on maltraitait son corps, on maltraitait le matériel pour exalter le spirituel. Soit on disait que puisque la matière est mauvaise de toute façon, c'est pas grave ce qu'on fait avec le matériel, avec notre corps. Donc ça conduisait d'un côté à l'ascétisme et de l'autre côté à la licence au péché. Et Paul a à cœur de corriger cette doctrine. Elle était très grave parce que au plan de la doctrine de Dieu, elle pensait que Dieu n'avait pas pu créer le monde. Parce que, encore une fois, la matière, c'est trop sale, c'est trop vil. Et donc, Dieu avait produit des émanations de sa personnalité, donc des espèces d'échos de sa personnalité, et d'émanation en émanation, on en était arrivé à Jésus, qui n'était pas Dieu, mais qui était simplement quelqu'un qui avait créé le monde, où on disait que Jésus, il était séparé, il y avait la partie divine en lui, il y avait la partie matérielle, et que c'était la partie matérielle qui avait créé le monde, ville. Bref, ça donnait une représentation totalement anti-scriptuaire, anti-biblique, de la personnalité de Jésus-Christ. Et Paul, comme toujours, a à cœur de redonner la vérité sur la personne de Jésus-Christ. S'adresse donc à ses fidèles à l'église de Colosse, qui était en Asie mineure, pas loin d'Éphèse, de Hiérapolis. Et il leur parle de l'évangile qui porte du fruit dans le monde entier. C'est intéressant de savoir que l'évangile va porter du fruit à Nebo Bongo, au Congo. Parce que quelqu'un a reçu cette lumière, quelqu'un a reçu cet évangile et va le vivre, va l'incarner, va en témoigner et le dire. Et des âmes vont être sauvées. Paul est un homme de prière. Il dit à ses chrétiens de Colosse qu'il ne cesse pas de prier pour eux. Ça veut dire que chaque fois qu'il pense à eux, il a cette attitude où il les met devant le trône de Dieu pour que Dieu les bénis. Si nous avons vu la semaine dernière le début de cette très belle prière, et on va lire ensemble les versets 9 à 14, si vous voulez bien suivre. Verset 9 de l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1. C'est pourquoi, nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérant et patient. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Nous allons nous arrêter ici. On a commenté le début de ce passage la semaine dernière en disant que c'était une prière que nous devrions prier les uns pour les autres, prier pour l'Église. C'est une prière qui nous demande, qui demande l'aide de Dieu pour qu'on soit rempli de sa connaissance. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu en esprit, en vérité, de l'adorer en esprit, en vérité. Et si vous me dites que vous étudiez la Bible, je ne me fais pas de soucis pour votre santé spirituelle. Les sectes, les hérésies n'auront pas de prise sur vous parce que si vous recevez tout le conseil de la parole, à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité vous rend libre, elle vous affranchit des mensonges qui sont colportés, transportés par ces sectes qui veulent dominer sur vous, qui veulent profiter de vous. Connaître Dieu, et cela vous permet de connaître sa volonté. On a parlé de l'importance de connaître la volonté de Dieu. Comment savoir que Dieu me veut à Nebo Bongo? Ce n'est pas le premier jour qu'ils sont rentrés dans une église, qu'ils ont eu ce signe en néon sur le mur, mais c'est parce qu'ils ont rencontré le Seigneur, ils ont appris à le connaître, à marcher avec lui, à vivre dans sa communion, que le Seigneur a pu mettre en place ce projet pour la vie de Mathias et Sabine. En toute sagesse et intelligence spirituelle, nous sommes invités à marcher d'une manière qui plaît à Dieu, à porter des fruits. Et les fruits, ce sont les œuvres bonnes, et toujours de croître dans cette connaissance de Dieu. Et puis, Paul a cette requête un peu inhabituelle où il prie pour que nous recevions la puissance de Dieu, sa force glorieuse. Et on peut penser que cette force glorieuse, ça va être pour faire des grandes choses, pour aller prêcher à Bercy, au Stade de France, voir des millions de personnes se convertir puissamment. Mais cette puissance que Paul invoque sur les chrétiens de Colosse et à travers les âges sur nous, c'est pour que nous soyons complètement, tout à fait persévérants et patients. Ça, c'est quelque part, je crois que on doit admettre qu'on est presque déçus. On dit toute cette force juste pour être persévérant et patient. En fait, c'est parce que cette persévérance et cette patience, on a dit la persévérance, c'est de savoir tenir tête aux circonstances, et la patience, c'est de savoir vivre avec les gens qui sont difficiles à vivre. C'est le plus fort témoignage, d'accepter l'autre avec tous ses problèmes, toutes ses fautes, d'accepter sans rouspéter les circonstances de la vie, et de les embrasser avec Jésus en lui demandant son aide. Et Paul continue cette prière qui est d'une seule phrase en grec original, dans l'original plutôt. Il enchaîne en disant « Rendez grâce avec joie ». Le mot « joie » en fait peut aussi, suivant la façon dont on traduit, les deux versions sont plausibles, sont possibles. C'est cette la persévérance, la patience peuvent être accompagnées de joie. Et c'est vrai que quelqu'un qui persévère et qui est patient, mais qui fait une tête de 100 pieds, c'est pas très encourageant pour ceux qui l'entourent. Par contre, la joie, c'est la force du chrétien. C'est ce qui va toucher ceux qui nous entourent, de voir cette joie qui est en nous malgré les circonstances, malgré les personnes difficiles avec lesquelles nous sommes appelés à vivre et à nous entendre. Rendez grâce avec joie, c'est aussi l'autre version, c'est de dire merci. Quand on est enfant, souvent nos parents, nos mamans principalement, nous disent « Dis merci au monsieur, dis merci à la dame, dis merci à Dieu, dire merci », c'est un tout petit mot, mais qui change tout. Parce que quand on dit merci, ça veut dire qu'on est satisfait de ce qu'on a reçu, ça veut dire de ce qu'on est heureux, Alors si on rouspète, si on dit encore, on n'est jamais satisfait. Et rendre grâce, c'est simplement, encore une fois, c'est dire merci. La grâce, c'est la faveur non méritée que Dieu nous donne en venant nous aimer. Et rendre grâce, c'est simplement accepter en disant merci. On peut pas aimer Dieu parce qu'il ne le mérite pas. Dieu, au contraire, mérite d'être aimé. Donc on ne peut pas avoir l'équivalent de la grâce pour Dieu. La grâce, elle va de Dieu vers l'homme. L'homme ne peut pas présenter de la grâce envers Dieu parce que ça ne veut plus rien dire. C'est plus de l'amour immérité. Au contraire, Dieu mérite toute notre louange, tout notre amour et notre reconnaissance. On a dit, et c'est très beau cette image, que la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui descend des nuages, le gros biceps de Dieu sur lequel est tatoué le mot grâce. Et nous, notre façon de recevoir cette grâce, c'est de tendre notre petit bras fluet, maigrichon, faiblard, mal nourri pour certains, mieux nourri pour d'autres. Et sur ce bras chétif, il y a marqué foi. Foi et reconnaissance. On ne peut que recevoir cette grâce de Dieu par la foi en disant merci. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On peut entendre ces mots. Ça peut être des mots religieux. Ça peut être des expressions des mots qui s'entrechoquent et qui ne nous touchent pas à l'intérieur. On peut être tellement habitué à entendre parler de l'amour de Dieu, de son sacrifice à la croix, qu'on peut avoir un cœur endurci et ces mots coulent sans irriguer notre âme. C'est un peu comme quand la terre est endurcie, l'eau, il peut pleuvoir, mais l'eau n'est pas prête à recevoir, elle n'a pas été labourée. Et souvent, lorsqu'on lit la Bible, il faut se garder de voir ces expressions comme des expressions religieuses. Rendre grâce, qu'ils soient capables, l'héritage des saints, la lumière, blablabla. Quand est-ce qu'on va manger là? J'ai faim, moi, je ne peux plus ce matin. Non, essayons de voir ce que Dieu nous dit là. Essayons de nous laisser, laissons-le nous toucher plutôt. Donnons-lui, accordons-lui l'attention qu'il mérite bien sûr, mais laissons les mots. Et des fois, c'est la même chose lorsqu'on chante la louange. Moi-même, j'arrive, j'entre dans la louange et puis mon esprit est partout, mais sauf dans les mots que je dis. Et puis de temps en temps, je crois qu'on le vit collectivement, il y a une ferveur profonde qui s'installe dans la congrégation quand on chante. Et d'un seul coup, on est touché par les mots qu'on chante. Dieu merveilleux. Et on peut rester en dehors de ça, mais si on entre dans l'adoration, d'un seul coup, on a envie. Moi, les larmes peuvent venir facilement lorsque Dieu me touche comme ça. Parce que ça parle au plus profond, il y a un écho qui se fait dans mon cœur. Et c'est ce que Paul veut susciter. Il dit, est-ce que vous réalisez ce que Dieu a fait pour vous? Il vous a rendu capable. Le mot qui est traduit dans cette version par « rendu capable », ça peut être « il vous a qualifié », « il vous a permis d'arriver au point où vous êtes à même de partager l'héritage des saints dans la lumière ». Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et là, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Est-ce que ça vous touche? ou est-ce que ça reste des termes? J'aimerais ce matin parler un peu de ces deux, trois versets. C'est intéressant parce que pour Paul, c'était sa mission dans la vie. C'était d'aider les gens à qui il pouvait parler de réaliser ce qui est dit dans ces quelques mots. À la fin de sa vie, ou à la fin plutôt du livre des Actes, il est amené à témoigner devant le roi Agrippa. Et au chapitre 26, si vous voulez vous y tourner, chapitre 26, il raconte à ce grand personnage, la famille d'Hérode, qui régnait sous le contrôle des Romains à Jérusalem. Il raconte l'épisode de sa conversion sur la route de Damas. À partir du verset 9, on va lire un peu pour se replacer dans le contexte, voir un peu le miracle que Dieu avait opéré en Paul. Pour moi donc, verset 9 du chapitre 26 du livre des Actes, « Pour moi donc, j'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints, c'est-à-dire de croyants, après en avoir reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on voulait les faire mourir, j'apportais mon suffrage. Je votais pour. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères, À cet effet, je me rendis à Damas, en Syrie, avec les pouvoirs et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin briller autour de moi et de mes compagnons de route une lumière venant du ciel plus brillante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Il est dur pour toi de regimber contre les aiguillons, de te retourner contre les aiguillons qui faisaient avancer les bœufs pour les paysans. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ? » Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu. Je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Et le Seigneur lui explique sa mission. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple, les Juifs, et des païens vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Verset 18, on a l'impression que c'est la même chose que le verset 12, ou plutôt 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Paul parle à des gens dans la ville de Colosse, où il y avait eu pas mal de personnes qui avaient été déportées et installées là. Et il fait, lorsqu'il parle de transport, il fait allusion à une coutume antique qui voulait dire lorsqu'un royaume, des troupes envahissaient un pays, qu'elles assuraient la domination dans ce pays, elles emportaient tout dans leur propre pays, ramenaient tout ce qui était transportable. Les personnes, le cheptel, les œuvres d'art, le mobilier, tout était ramené. Il y avait un transport complet, un vrai déménagement à la française, où il ne reste même plus les ampoules dans l'appartement vide. Ça, c'est pour nos amis anglo-saxons qui ne comprennent jamais que quand ils arrivent dans un appartement nouveau, il n'y a même plus d'ampoules, ni de... C'est tout juste, il y a le robinet. Il n'y a plus de miroir, tout a été vidé. Et de la même façon, il leur dit que Dieu les a transportés du royaume de Satan, pouvoir des ténèbres jusqu'au royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a équipés, Dieu nous a qualifiés, nous a rendus capables d'avoir part, de partager l'héritage des saints. Qu'est-ce que c'est que l'héritage des saints ? Les saints, encore une fois, ce ne sont pas des statues devant lesquelles on fait brûler des petites bougies pour seulement 1 euro ou 50 centimes. Non, les saints, ce sont tous les gens qui sont à part, qui sont mis à part pour Dieu et pour son service, c'est-à-dire ce sont tous les croyants. Si vous avez mis votre confiance, si vous avez accepté le Seigneur dans votre cœur, vous pensez peut-être, je ne suis pas un petit saint, je suis encore un pécheur. Peu importe, d'après Paul, d'après la définition biblique d'être saint, vous êtes mis à part. Ça ne veut pas dire que vous faites tout parfaitement, que vous ne retombez pas dans le péché, mais vous êtes des saints et vous avez un héritage. Et cet héritage, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie avec Dieu. C'est l'intimité de vie avec Dieu. C'est la vie abondante dont Jésus nous parlait à ses disciples, qu'il était venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et cette vie en abondance, elle ne commence pas seulement au moment de notre mort, lorsque nous sommes de l'autre côté, en la présence de Jésus-Christ. Non, cette vie abondante, elle commence, et c'est aussi une bonne nouvelle, savoir qu'ici-bas, on peut avoir une vie passionnante, une vie pleine de sens, une vie formidable, pas une vie sans difficulté, loin de là, mais une vie qui remplit le cœur de joie et de sens et de destinée. Si on est en Christ, il nous donne cette vie abondante. Et quelque part, Paul explique qu'en fait, cette vie, c'est plus ma vie, c'est la vie que Christ vit en moi. Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est laisser vivre le Christ, son esprit qui est en nous. Et lorsqu'on réalise qu'on a cette possibilité que Dieu nous a rendu capable d'avoir cette vie abondante, ce merveilleux héritage, on est joyeux. Ça ne veut pas dire qu'on a un sourire béat dans toutes les circonstances de la vie, mais il y a cette paix intérieure. Il y a peut-être des vagues en surface, mais au fond, il y a cette profonde assurance que il y a un Dieu qui m'aime, il y a un Dieu qui veille sur moi, il y a une éternité avec lui, et tout le reste, ce sont des petites vagues dans ma vie, à la surface. Mais cette joie, elle va être la vôtre, elle va... Si vous êtes vraiment délivré du pouvoir des ténèbres et que vous êtes transporté dans le royaume de son Fils bien-aimé, si vous avez tout emmené de l'autre côté. Dans le livre, l'évangile de Jean, vous vous souvenez que Jésus était très clair. Nous, on aimerait bien penser qu'il y a Dieu, d'accord, il y a Satan, il y a le royaume de la lumière, il y a le royaume de Satan, les ténèbres, et qu'on est en route de l'un vers l'autre, et qu'on est peut-être plutôt dans le royaume de l'aube, qu'on est dans le royaume du crépuscule, on n'est pas encore bien sorti, mais on aimerait voir les choses en noir et blanc, avec une gradation. En fait, pour Dieu, spirituellement, il n'y a pas 56 solutions. Soit on connaît Jésus, on l'a accepté dans notre cœur, et à ce moment-là, on est dans le royaume de la lumière. Soit on ne le connaît pas, et on peut être la personne la plus sympa, même plus sympa que certains chrétiens, que je ne citerai pas, hein, parce qu'il y en a des chrétiens, mais spirituellement, on est soit un fils de Dieu et on est dans la lumière, soit on est un fils du diable et on est dans le royaume des ténèbres. Alors je sais, c'est difficile à penser que votre maman, qui n'est pas chrétienne, est une fille du diable. Mais reprenons ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean. On va reprendre le passage un peu largement. Jésus 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, page 114 dans la Bible à la Colombe, Jean 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libre ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père. » Donc il y a deux pères, soit Dieu, soit l'autre. Il lui répondit, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère des mensonges, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et vous et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Il y a un royaume des ténèbres. Il y a une réalité du monde spirituel qui fait qu'il y a, d'un côté, il y a, c'est pas juste de dire d'un côté il y a Dieu et de l'autre côté il y a Satan, parce que Dieu et Satan ne sont pas dans la même ligue. On est content à Nice ce matin, on est deuxième de la première ligue. Et on va pas parler des équipes de la deuxième ligue parce que elles sont dans une autre catégorie tout à fait à part. Et Satan, c'est une créature, c'est pas l'équivalent de Dieu, on n'est pas dans la philosophie zoroastrienne où il y aurait d'un côté le bien, de l'autre côté le mal et un perpétuel combat. Non, Dieu est le créateur, Dieu est bon, Dieu nous aime. Et il y a cette créature qui a voulu se rebeller contre lui et il a préparé un endroit pour cette créature qui s'appelle l'enfer. Mais quand on n'a plus cette... parce que nous avons péché, nous sommes devenus esclaves du péché. Il est dit que Satan est le prince de ce monde. Encore une fois, c'est fondamental que vous sachiez répondre aux gens qui vous disent « Mais si Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la violence? Pourquoi les guerres ?» J'ai une bonne conversation avec des étudiants qui sont venus me trouver pour me parler de ces sujets jeudi dernier. Et je leur ai expliqué « Mais le monde tel qu'il est, ce n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé, c'est le monde tel que l'homme l'a rendu. » Parce qu'encore une fois, Dieu ne peut pas nous forcer à l'aimer. Dieu, pour que l'amour auquel il aspire avec nous, il faut que cet amour soit libre. Si je ne peux pas refuser l'amour, c'est plus de l'amour, Si je ne peux pas dire non à quelqu'un, c'est le oui que je vais lui dire, ça va être un oui forcé, ça ne sera pas de l'amour. L'amour implique la liberté de choix. Et donc, Dieu nous laisse le choix, et nos parents, nos ancêtres, Adam et Ève, ont choisi de croire l'ennemi, le mensonge, et la Bible explique en raison de ça, nous sommes nés avec le péché, la vieille nature dans nos cœurs. Et nous devons faire cette démarche de venir à Christ, de naître de nouveau, de naître d'esprit, de retrouver un esprit dans notre vie, dans notre être, pour pouvoir communiquer avec Dieu et devenir ainsi des enfants de lumière. La lumière, c'est une des choses les plus compliquées à comprendre. Nous sommes complètement dépendants de la lumière physique, mais les physiciens ne savent pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a des grains de lumière, des photons? Est-ce qu'il y a des ondes? Alors on a établi la théorie de la lumière ondulatoire et corpusculaire, et pourtant c'est une chose essentielle. Quand on est dans le noir, on est mal, on se cogne, on a peur, on croit voir des choses alors qu'elles ne sont pas là, on croit que d'autres ne sont pas là alors qu'elles sont là. Le monde des ténèbres, Paul en parle dans Éphésiens, vous vous souvenez, pour nous rappeler que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. La lumière, c'est un symbole de sainteté, c'est un symbole de vérité, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole de gloire, c'est un symbole de vie. Elle caractérise Dieu, Dieu habite dans la lumière. Elle caractérise Jésus. Et elle s'oppose au royaume des ténèbres. Verset 13. Et pour pouvoir vivre comme un vrai chrétien, il faut vraiment avoir été rendu capable par Dieu d'avoir part à cet héritage. On est trop nombreux en tant que chrétiens à ne pas vivre dans la joie de cet héritage. Pourquoi ? Parce que même si légalement on a été délivré du péché, on continue à vivre dans le péché. Et si on a le péché dans notre vie, si on le laisse de façon habituelle, encore une fois, la Bible est claire que de ce côté de l'éternité, nous restons des hommes pécheurs. Si nous disons que nous n'avons pas de péché en nous, nous trompons, nous faisons de Dieu un menteur. Si nous n'avons pas de péché, Jésus n'avait pas à mourir sur la croix pour nous racheter. Mais si on est chrétien et qu'on laisse le péché subsister dans notre vie, alors qu'est-ce qui va partir en premier ? C'est la joie. On va être des chrétiens misérables. On a trop de Christ en nous pour apprécier pleinement le péché et trop de péché en nous pour apprécier pleinement l'intimité de Dieu. Et la seule façon d'être qualifié, c'est de venir à Christ, de confesser nos péchés, de reconnaître ce que nous faisons, ce que nous laissons faire dans notre vie, c'est quelque chose qui lui déplaît, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas à tous égards, à tout point de vue, comme il était indiqué au verset 10. Et si nous confessons nos péchés, il est juste et bon et fidèle pour nous délivrer de toutes nos iniquités. Nous devons pratiquer cette confession de nos péchés. Alors ça ne veut pas dire que vous venez le samedi soir au confessionnal à Calvary Chapel, on va mettre une petite... Non. Vous pouvez, si vous avez fait du tort à quelqu'un, demander pardon. Mais surtout, de demander pardon à Dieu et de reconnaître que ce que vous faites est mal et de lui demander son aide. En tant que chrétiens, lorsque nous péchons, nous n'avons aucune excuse parce que nous pouvons demander l'aide à Dieu de nous fortifier. Il est là pour nous, il peut nous aider, il peut nous protéger, il ne peut nous rendre capables d'avoir part à l'héritage dans la joie des saints, dans la lumière. Parce que nous avons été délivrés du pouvoir des ténèbres et il nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé, transportés. Il nous a translatés, un peu à la façon des hologrammes. Maintenant, on a vu un hologramme à l'occasion des élections américaines, où on peut transporter en un clin d'œil une personne d'un endroit à un autre. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, que nous reconnaissons que son sacrifice à la croix nous a sauvés, en un instant, nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous avons tous les droits de vivre dans ce royaume de la lumière, avec la victoire sur le péché. Mais de la même façon qu'on peut couper la chaîne d'un chien qui est habitué à vivre dans sa cage, dans sa niche, on peut choisir de revenir vers notre péché. On n'a plus de chaîne. La chaîne a été coupée, mais on vit, on revient dans la niche. On remange les vieux nonos, pleins de terre. Et on dit, ah ça c'est la vie. Ah. Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et en lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Encore une fois, c'est intéressant de faire le survol de toute la Bible, de voir, on a parlé du livre de Ruth et de comment ce livre illustre la personnalité ou la provision qui était faite dans la Torah, dans les cinq premiers livres de la Bible, dans le Lévitique notamment et les Nombres, comment quelqu'un qui s'était fait acheter en esclavage pouvait être racheté par quelqu'un d'autre. On pouvait racheter sa propre liberté. Si quelqu'un était trop pauvre pour payer ses dettes, il venait dire à la personne à qui il devait des dettes, « Je ne peux pas te payer, mais je viens me vendre à toi. » Et il entrait au service comme un esclave et il servait le reste de sa vie ou jusqu'à une période où il avait peut-être le choix de devenir un serviteur volontaire ou d'être racheté par quelqu'un d'autre. On pouvait aussi racheter le terrain de quelqu'un. Quelqu'un pouvait vendre son territoire parce qu'il avait besoin d'argent, son terrain plutôt parce qu'il avait besoin d'argent. Quelqu'un lui-même ou quelqu'un pouvait venir racheter le terrain et lui redonner. On pouvait retrouver la propriété de ce qui nous avait été supprimé par le besoin. Et on pouvait même, il y avait un troisième aspect de la rédemption, de ce rachat, on pouvait même racheter la postérité de quelqu'un. C'était une coutume un peu surprenante. C'est si un homme dans un couple mourait sans avoir eu d'enfant, un de ses frères pouvait avoir un enfant avec la femme de son frère pour racheter, pour donner une postérité à ce frère qui était mort sans avoir eu d'enfant. Et on a vu en parlant dans le livre de Ruth qu'en fait la personne qui pouvait procéder à ce rachat, c'est ce qu'on appelait le rédempteur. Et le rédempteur, c'est un mot un peu religieux, c'était celui qui pouvait racheter. Et plus que pouvoir, il fallait d'abord être un proche parent. C'était la notion de Goël. Le Goël, c'était un proche parent qui pouvait racheter soit la liberté de la personne, soit son terrain, soit une postérité. Et on a vu comment Boaz, le riche parent de Ruth, était cette personne qui venait racheter le terrain, qui donnait un terrain à Ruth et à sa belle-mère Naomi, comment il donnait une descendance, il rachetait une descendance, une postérité à l'homme qui était mort, au mari de Ruth, une postérité qui allait compter parmi elle, ni plus ni moins que Jésus-Christ lui-même. Et qui finalement rachetait Ruth et Naomi, qui n'avaient plus besoin de travailler comme esclaves pour survivre et survivre. Et on a dit qu'en fait, ce Boaz, ce riche parent, plein d'amour, c'était une image de Jésus-Christ. Parce que pour pouvoir racheter, et nous avons, en obéissant au péché, nous étions devenus les esclaves du péché, il fallait, d'après ce principe biblique du proche parent, il fallait que quelqu'un vienne nous délivrer de cet esclavage, de cette servitude, quelqu'un qui soit un proche parent. Jésus-Christ s'est fait homme. Il est un proche parent. Il sait ce que c'est que d'être un homme. Il fallait qu'il ait les moyens de racheter. C'est pas le tout de vouloir. Moi, j'aimerais bien des fois acheter une belle villa avec piscine pour tous les gens qui cherchent un studio et qui ont du mal à trouver un loyer, etc. Mais j'ai pas les moyens. Et il fallait surtout que la personne soit volontaire. Trois conditions pour que quelqu'un rachète quelqu'un d'autre. Être un proche parent, avoir les moyens et le vouloir. Et ces trois conditions, on l'a étudié en survolant la Bible, elles sont réunies en Jésus-Christ. Et il nous rachète de l'esclavage, c'est ce que nous avons vu en lisant Jean 8, et ici aussi. Il va nous faire entrer en terre promise. Il va nous donner un territoire, il va nous redonner le contrôle de la terre quand il reviendra régner sur la terre. Il nous donne une postérité dans le sens que nous sommes une famille, nous sommes un sacerdoce royal, il est dit dans Apocalypse 1. Il a fait pour nous, de nous tous, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, verset 5. En lui, en ce Fils bien-aimé, nous avons ce rachat, nous avons cette rédemption. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire, d'être libéré, d'être racheté? Et nous avons le pardon des péchés. Il n'y a rien de plus terrible que la culpabilité. On en a parlé en disant que ça ne doit jamais être notre motivation, parce que c'est un fardeau, la culpabilité. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime rencontrer, vers lequel on va volontiers, c'est plutôt on se retrouve prisonnier de cette culpabilité. Mais de savoir que nos péchés sont pardonnés, d'un seul coup notre cœur est libéré du poids de cette culpabilité. Et c'est cet amour, c'est ce pardon qui nous conduit, qui veut nous encourager à ne plus pécher. Et pourtant, c'est mon expérience, je suis à peu près persuadé que c'est votre expérience. C'était aussi l'expérience de Paul, de savoir qu'il ne faisait pas ce qu'il voulait faire et pourtant, il faisait aussi des choses qu'il ne voulait pas faire. Qui me délivrera de ce corps misérable, disait-il. Et tout de suite après, il parlait de l'Esprit Saint, il parlait de se soumettre à l'Esprit Saint, de confesser nos péchés. Et encore une fois, nous devons avoir cette attitude de ne pas nous accrocher ou ne pas penser que nous ne pouvons pas nous libérer de certains péchés habituels. Et on a tendance à mettre le blâme sur les autres, sur nos parents qui étaient corses et qui m'ont donné un tempérament coléreux. Bien connu, les Corses sont coléreux. Hein. Les Irlandais sont bagarreurs. etc., etc. La confession, elle commence là où s'arrête l'accusation des autres. Je suis terrible, c'est ce que me dit ma femme et mes enfants, pour dire que je ne reconnais jamais simplement mon tort. J'ai toujours une excuse. Et il faut vraiment qu'on mette le doigt dessus pour réaliser que c'est vrai. J'ai rarement la capacité d'accepter que c'est ma faute et de demander pardon. Et avec Dieu, c'est lorsque vous confessez vos péchés, vous arrêtez de mettre le blâme sur les autres. Vous venez à lui et vous lui demandez de vous pardonner et de vous aider. Tant que vos problèmes, c'est la responsabilité des autres, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir recevoir ce pardon. Vous n'allez pas pouvoir être vraiment translaté, transporté dans ce royaume de lumière. Vous y êtes légalement, vous y êtes en droit, mais vous n'y êtes pas par votre expérience. Les Juifs, et là aussi on va parler de ça dans l'exil, Dieu avait envoyé les prophètes pour leur faire admettre qu'ils avaient tort, pour leur faire admettre qu'ils péchaient. Ils avaient accepté des tas d'idoles dans leur vie, dans la vie de leur nation. Ils célébraient Yahweh, Jéhovah, le Dieu d'Israël, mais ils célébraient toute une sorte d'autres dieux, d'autres idoles. Et Dieu voulait les bénir. Dieu veut nous bénir. Mais tant qu'on ne dit pas « j'ai tort », tant qu'on ne dit pas « j'admets que c'est ma faute », alors il ne peut pas nous bénir. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé le prophète Jérémie qui a été le dernier à leur parler au peuple d'Israël avant qu'il soit déporté, au peuple de Juda. Et Dieu disait, si seulement ils reconnaissaient qu'ils ont tort, je veux leur donner ma vie, je veux leur donner la plénitude de la vie abondante. Et il nous dit ça à nous aussi. Mais est-ce que on est prêt à prendre la responsabilité de notre péché et à dire, je reconnais que c'est de ma faute. C'est la condition pour être pardonné, pour être, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos iniquités. Tant que nous ne confessons pas et que nous ne demandons pas son aide, tant que je justifie mon péché, je ne vais pas demander l'aide de Jésus pour me libérer de ce péché. Je veux dire, ce n'est pas ma faute, c'est la faute à un tel, c'est la faute à la société, c'est la faute aux médias, c'est la faute... Et je vous laisse continuer les explications. Et encore une fois, nous avons été translatés. Il est dit dans 1 Jean que le monde entier est au pouvoir du malin. Encore une fois, le monde tel qu'il est, c'est le monde tel que l'homme, en obéissant à Satan, a donné le pouvoir à Satan de mener le monde. Le monde tel que nous voyons, les disputes, les rancœurs, les viols, les guerres, les violences de toutes sortes, les corruptions, bien sûr que ce n'est pas l'idée de Dieu. Bien sûr que ce n'est pas ce que Dieu veut. Bien sûr que ce n'est pas ce que Dieu va laisser durer pendant des milliards d'années. Dieu va venir remettre les choses en ordre. Maintenant, c'est le temps de sa patience. Il veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut emporter le plus de monde de l'esclavage, du pouvoir des ténèbres, pour nous emporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et le royaume, la meilleure définition du royaume, c'est là où quelqu'un règne. Le royaume de Dieu, le royaume de son Fils bien-aimé, le Fils de son amour, l'expression en hébreu, c'est là où Dieu règne. Et je peux entrer, je suis dans le royaume de Dieu, j'y suis si j'ai accepté le Seigneur, mais j'y suis par expérience simplement si Jésus règne vraiment dans mon cœur, si c'est lui qui dirige ma vie, mes réflexes, mes réactions, alors je suis dans le royaume de Dieu. L'homme, encore une fois, est un pécheur, par nature. Notre société a tendance à excuser tous ces maux. On dit que ce sont des maladies. On ne dit pas qu'on a péché en buvant de l'alcool, on dit qu'on est malade de l'alcoolisme. On ne dit pas qu'on pêche en se livrant à l'homosexualité, on dit que c'est une tendance naturelle, qu'on est né comme ça. On ne dit pas qu'on a volé, on dit qu'on est kleptomane. On ne peut pas s'empêcher, c'est plus fort que moi. Et notre société a tendance à excuser. Personne ne prend la responsabilité. Ça fait tellement de bien lorsque vous dites « Désolé, c'est de ma faute. » Et ça coupe. Essayez de le faire de temps en temps. Faites-le tout le temps. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le une première fois. Vous allez voir que ça désarme. Il y a plus de, les gens n'ont plus de grief, vous avez admis. Et vous pouvez partir de là et avancer. Non, nous avons une responsabilité. Encore une fois, Dieu nous laisse la liberté de choix et nous pouvons exercer notre choix. Et la seule façon de sortir de tous ces problèmes, de l'alcoolisme, de l'homosexualité, c'est de venir à Jésus-Christ. Il y a aussi un sentiment, et sans en faire une marotte, je crois que c'est très important de réaliser qu'aujourd'hui, certains pensent que la Bible, c'est pas mal. Jésus-Christ est capable, c'est sûr, de vous amener à la vie éternelle, mais Jésus-Christ n'est pas capable de vous guérir de vos problèmes dans votre vie présente. Pour ça, il faut aller voir des spécialistes. Il faut aller voir des psychothérapeutes, des ergothérapeutes. Ça, c'est le domaine des choses possibles. Encore une fois, il y a une place pour la psychologie, il y a une place pour l'écoute, pour l'attention, pour les techniques d'écoute, mais c'est des choses qui sont arrivées il y a 100, il y a 200 ans. Jésus est tout à fait capable de nous guérir de tous nos maux. Est-ce que nous sommes convaincus de la toute suffisance au sens de la capacité complète de Jésus pour nous guérir de tous nos problèmes? Il est capable de nous transporter dans ce royaume où il règne, où nous avons le rachat. Il nous a rachetés et il nous a pardonné nos péchés. Dieu dit que les péchés, nous, lorsqu'on pardonne le péché de quelqu'un, on garde le petit carnet. Il y a dans le fichier d'archives, quelque part sur un serveur, dans la galaxie du web, il y a la liste des choses que les gens nous ont fait. Et si jamais ça va mal, on peut faire une recherche sur Google qui va aller nous ramener. Hey, tel jour tu m'as fait ça, ça et ça. La Bible dit que Dieu oublie nos péchés de façon aussi radicale que l'Est est éloigné de l'Ouest. Le Nord est éloigné du Sud, mais ils se rejoignent au pôle. Mais l'Est et l'Ouest ne se rejoignent jamais. Ça, c'est pas pour décourager les relations entre les gens qui habitent à l'Est et à l'Ouest, mais c'est pour dire que Dieu, il enfouit nos péchés. Ils sont comme au fond de l'océan. Il n'y a pas de sonar pour aller les détecter, pour aller les rechercher. On parlait de David récemment aussi dans le survol de la Bible, et on dit pour lui c'est difficile parce que c'est inscrit dans la parole qui va demeurer pour l'éternité. Mais Dieu l'a pardonné, lui a pardonné ses péchés, et nous avons la rédemption, nous avons ce rachat. Paul va continuer cette prière. C'est un peu comme s'il s'est un peu égaré en parlant de tout ce que Dieu a fait. Il a ce chant de louange. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Est-ce qu'on réalise que ça a coûté le sang de Jésus-Christ? Parce qu'il est dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On trouve que c'est sanguinaire, mais c'est une vérité biblique. On la comprend, on ne la comprend pas. Moi, je ne la comprends pas complètement. Mais pour qu'il y ait vraiment un pardon, il faut que le sang coule. Et le sang de Christ a coulé pour nous rendre capables d'avoir part à cet héritage. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour ça? Est-ce qu'on peut se dire, mais c'est fantastique, c'est incroyable, qu'est-ce que tu as fait pour moi, Seigneur? Et lorsqu'on a ces moments, alors ces mots prennent toute leur valeur. Ils nous remplissent d'espoir, ils nous remplissent de joie, parce que nous avons été rendus capables. Rendus capables, encore une fois, en confessant nos péchés, en demandant pardon à Dieu. Et nous sommes dans la lumière. J'ai amené une lumière, elle est faible là. Parce que si le soleil disparaît, si les nuages arrivent, alors d'un seul coup ça devient sombre. C'est pas gai, c'est pas chaleureux. Nous sommes des enfants de lumière si nous avons accepter le sacrifice de Jésus et si nous vivons dans sa lumière. Amen.